Moi, c'est André de Mboujimaï au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Publication hier soir sur les antennes de la RTNC de l'ordonnance présidentielle portant investiture de la nouvelle commission électorale nationale indépendante. L'équipe que dirige l'abbé Apollinaire Malumalu Moolungu pourrait alors entrer en fonction. Mais avant cela, de nombreux membres, les nouveaux membres de la CENI devront prêter serment devant la Cour suprême de justice faisant fonction de la Cour constitutionnelle dans 4 jours. Rappelons que cette restructuration de la CENI a été souhaitée tant par la société civile, le milieu politique et la communauté internationale suite aux contestations liées au scrutin du mois de novembre 2011. Quels sont, selon vous, les défis qui attendent le nouveau bureau de la CENI? Nous en parlons avec le professeur Jean-Pierre Mbouboakalala, professeur des sciences politiques et analyste politique. J.R. Lungembo, Titimputu, Paul Badianyama assure la réalisation de cette émission présentée par Pierrot et la Meiji sous la supervision de Nikon Ngaka, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
C'est depuis hier soir que les membres de la CENI ont été investis par le chef de l'État. Il ne reste que leur prestation de serment devant la Cour suprême de justice faisant fonction de la Cour constitutionnelle. Et cela va intervenir dans 4 jours et ils vont ainsi se lancer dans les activités pour les élections, que ce soit la suite du processus électoral entamé depuis 2006 et la suite 2011 jusqu'aux futures élections. Pour vous, quels sont les défis qui attendent de nouveau au bureau de la CENI? Nous en parlons avec vous, ingénieur Mangoyo. Vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot.
Nous parlons du nouveau bureau de la CENI et l'avenir. Pour vous, quels sont les défis qui attendent ce nouveau bureau de la CENI?
Merci, Pierrot, pour la parole. Pierrot, moi, je crois que en termes de défis, les acteurs animateurs de la CENI auront d'abord à faire face à la contestation par rapport à la mise en place de ces bureaux de la CENI. Pierrot, vous savez que déjà au niveau de la loi organisant cette CENI, il y a eu pas mal de contestations. Et nous disons que cette loi, d'aucuns avaient constaté que ça porte toujours des germes de conflits, des germes tout à fait qui ne vont pas favoriser personnellement la bonne marche de ces bureaux de la CENI. Ça c'est un. De deux, il y a cette contestation qui sera liée à la présence de M. l'abbé Malumalu. M. l'abbé Malumalu appartient à la confession religieuse catholique, qui elle-même est une sous-composante des confessions religieuses. Mais tout le monde sait que je n'ai rien contre la personne de M. l'abbé Malumalu, mais ici, en tant que Congolais, nous devons parfois nous dire des choses pour faire avancer ce pays. La sous-composante confession religieuse catholique, à travers la CENCO, avait fait une déclaration selon laquelle aucun prélat, aucun religieux de cette confession ne peut briguer un poste au niveau de la CENI. En revanche, la confession religieuse catholique, qui est une sous-composante de la société civile, a proposé un laïc que le nom dont le nom a été publié et connu de tout le monde. Alors, à notre grand étonnement, M. Malumalu est désigné président du bureau de la CENI. Non, Je crois que...
Monsieur l'ingénieur Mangoyo, si nous pouvons évoluer avec le débat, parce que les choses ont déjà suffisamment avancé, il y a eu plusieurs débats autour de ce qui était proposé comme candidat au sein du bureau de la CENI. Les composantes se sont tiraillées, ils ont discuté, ils sont arrivés à une conclusion au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà à l'investiture et demain, prestation des serments, dans 4 jours, on va aller regarder de l'avant. Si nous voulons encore revenir sur les comment les gens ont été désignés, sûrement ce débat n'aura pas évolué. Parce que les choses ont déjà avancé. On pense qu'il y a un consensus parce que les uns et les autres ont fini par dire oui, voilà le bureau est là, mais on écoute les uns et les autres dans le média, les gens contestent, les uns les autres contestent. Mais nous n'allons pas encore faire le débat aujourd'hui sur les gens qui sont désignés, parce qu'ils sont déjà désignés, ils ont été investis. Maintenant, le débat, c'est autour de l'avenir. Qu'est-ce qu'ils attendent? Quels sont les défis? Qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport au processus électoral? Voilà un peu comment on peut évoluer, ingénieur Mangoyo.
Mais monsieur Pierrot, et nous avons, nous, cette culture dans notre pays de préparer le lit au désordre. Parce que le chef de l'État a déjà promulgué, parce que. Mais non, moi je crois qu'il faut déjà, au niveau des prémices, il faut
ingénieur Mangoyo, s'il vous plaît. Ingénieur Mangoyo, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Les deux sujets.
Ingénieur Mangoyo.
Quel est le défi, monsieur Pierrot, nous pouvons, nous, demander à ce bureau qui sera contesté, c'est sûr, qui sera contesté. Et la CENCO qui a promis des choses, de prendre des positions dans les jours à venir. Bon, si aujourd'hui l'Église catholique disait que Malmalou n'a pas été présenté par sa sous-composante. Alors, si aujourd'hui, Malmalou, il est libre, c'est un citoyen congolais. S'il veut, il a choisi la voie de la politique. Mais il n'a qu'à déposer,
ingénieur Mangoyo, s'il vous plaît.
Et en ce moment-là, les gens seront apaisés. Et puis,
ingénieur Mangoyo, s'il vous plaît, ingénieur Mangoyo.
Quels défis vont relever?
Ingénieur Mangoyo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ingénieur Mangoyo.
Oui.
Mais tout de suite, on va commencer à s'étirailler sur les antennes autour de... Les thèmes de l'émission sont bien définis. Vous vous rappellerez que nous avons eu avec vous, dans Parole aux auditeurs, les sujets autour des profils. Vous aviez dressé les profils de qui pouvait être membre de la CENI. Nous sommes revenus dans une émission pour dire quelles sont les priorités pour les députés et les uns et les autres qui vont choisir les membres. Nous avons défini. Maintenant, nous sommes à l'étape parce que les émissions aussi ont une certaine progression. L'étape d'aujourd'hui dans cette émission, c'est de regarder ceux qui ont été désignés à investir, de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'ils doivent faire dans l'avenir, parce qu'on sait qu'il y aura des contestations. Mais qu'est-ce que ces membres qui sont élus doivent faire dans l'avenir pour éviter qu'on tombe dans les erreurs du passé? Voilà un peu comment s'inscrit l'émission d'aujourd'hui. Parce que si nous devons revenir encore dans le débat, nous n'allons pas encore aujourd'hui proposer d'autres noms, parce que les noms ont été déjà proposés, ils ont été déjà investis. Maintenant, nous regardons dans l'avenir. Qu'est-ce qui doit être fait dans l'avenir aujourd'hui par le nouveau bureau de la CENI pour effectivement éviter qu'on tombe dans les pièges, comme vous êtes en train de le dire? Comme ça, ça va permettre aux autres auditeurs qui viennent après d'avancer avec le débat, au lieu de revenir encore en arrière sur ce que vous et nous avons déjà débattu dans cette émission, dans les éditions précédentes, ingénieur Mangoyo.
Bon, écoutez, si tel est le cas, moi je n'ai aucun mot à dire à ce propos, donc qui se débrouille comme bon le ressemble, moi je ne peux pas dire quoi que ce soit devant une situation d'imbroglio.
Alors là, merci, c'est votre point de vue, ingénieur Mangoyo, mais le souci pour nous, c'est d'évoluer dans le débat aujourd'hui, parce que le bureau de la CENI a été déjà investi. Quels sont les défis à relever? Qu'est-ce que vous proposez à ces bureaux pour travailler dans l'avenir, éviter qu'on tombe dans les erreurs du passé? Voilà un peu l'orientation de notre échange d'aujourd'hui. Notre invité est déjà dans ce studio, professeur Jean-Pierre Mboukalala. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous allons écouter Maître Machaka qui est à Lubumbashi. Bonaventure est en Mbandaka. On va revenir à vous. Maître Machaka, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez suivi tout à l'heure notre échange avec ingénieur Mangoyo pour dire que, voilà, nous avions fait beaucoup de débats autour de gens qui seront désignés pour diriger le bureau de la CENI. Mais dès lors que nous avons déjà les gens qui ont été désignés, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne va pas faire les débats sur la procédure de désignation aujourd'hui, nous en avons déjà parlé dans Parole aux auditeurs, mais plutôt aujourd'hui c'est de regarder dans l'avenir quels sont les défis que ces bureaux de la CENI doivent relever dans l'avenir, Maître Machaka.
Merci beaucoup Monsieur Pierrot de m'avoir accordé cette opportunité. On ne va plus encore revenir dès qu'il est de l'arrière, Monsieur Pierrot, puisque le bureau est déjà là. Notre tâche à nous, c'est de donner quelques conseils au bureau qui est lié, M. Pierre, puisque vous savez, aujourd'hui, ce que moi je peux demander au bureau et à M. l'abbé Malumalu, c'est de regarder en priorité l'intérêt de la population congolaise, de bannir les intérêts tribaux et les intérêts des tendances politiques, de regarder d'abord l'intérêt de la population congolaise qui en souffre, M. Pierrot, puisque aujourd'hui, ce que je peux encore demander à nos autorités, de laisser ces bureaux-là libres, de réagir librement et de mettre à côté leurs intérêts politiques et leurs intérêts égoïstes, M. Pierrot, puisque aujourd'hui, quand on fait confiance encore à M. l'abbé Malumalu, c'est compte tenu de ce qui s'était passé aux élections de 2006. Alors, il doit savoir comment sauver son honneur. Il ne cherche pas à se salir avec la politique. Il regarde l'intérêt de la population congolaise qui en souffre tant mal, M. Pierrot.
Merci, Maître Machaka. Pour vous, vous pensez que les bureaux étant déjà désignés, c'est qu'il faut faire comme une priorité aujourd'hui pour ces bureaux. Pour vous, le défi, c'est le fait d'abord de se dépasser de tendances politiques. Mais vous avez aussi pensé qu'au niveau des acteurs politiques, ils devaient laisser le nouveau bureau de la CENI travailler dans toute liberté pour l'intérêt de la population qui souffre. Merci beaucoup, Maître Machaka. Bonne aventure. Vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Et pour vous, quels sont les défis auxquels vont faire face les membres du nouveau bureau? Ce qu'ils doivent faire dans l'avenir?
Ok, merci beaucoup. Une petite correction, c'est Bonaventure depuis Guémena, c'est pas en Bandaka.
Vous êtes à Guémena, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Bon, j'ai presque suivi tous les auditeurs qui viennent de passer sur votre émission, mais les défis à relever au nouveau bureau qui vient de s'installer, c'est quoi? Nous avons pu constater tout ce qui s'est passé au niveau des 2006 avec la même personne qui est revenue aujourd'hui comme le président. Alors, ce qu'on peut lui porter comme conseil, c'est quoi? Qu'il fasse de plus vite que possible d'organiser l'élection provinciale. Si tarde encore, c'est parce que quand nous regardons dans notre constitution, il y a nulle part qui demande, qui autorise que les députés provinciaux doivent briguer un deuxième mandat ou encore ils doivent faire deux mandats. Vous voyez que partout, il y a encore les gouverneurs qui continuent toujours à rester là-bas. Il y a aussi des sénateurs. Alors, nous demandons à M. Malumalu, c'est parce qu'il oublie le passé et qu'il organise une élection qui est tirée, qu'il pense un peu à la population, qui ne voit pas l'intérêt politique ou encore l'intérêt personnel pour seulement faire sortir quelqu'un qui sera imposé. C'est parce qu'on se souvient de l'année 2006. Si votre nom Michel est ici, nous avons entendu que le résultat de 2006 a été proclamé dans les chars. Donc, c'était regrettable. Il y a eu des familles qui sont restées des orphelins aujourd'hui et des veuves ou encore des veuves. Mais notre problème est que nous avons encore confiance à M. Abbé Malumalu qu'il organise une élection qui est crédible et élection sérieuse et on va l'applaudir. Donc c'est tout ce que je pouvais porter comme conseil à M. Abbé Malumalu.
Merci beaucoup, Bonaventure. D'abord, vous avez proposé au nouveau bureau de la CENI de poursuivre avec le processus électoral parce qu'il y a les élections des députés provinciaux qui n'ont jamais été organisées. Il y a aussi les qui vont par ricochet conduire au renouvellement du Sénat, mais aussi au gouverneur. Vous souhaitez que ces bureaux puissent se mettre au travail pour achever ce processus électoral, mais aussi qu'ils puissent travailler dans toute transparence pour éviter les erreurs du passé. Blanchard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Blanchard.
Oui, bonjour Pierre Lache.
Pour vous, quels sont les défis à relever pour le nouveau bureau de la CENI?
Bon, pour moi, les défis que doit relever le nouveau bureau de la CENI sont nombreux. Entre autres, la CENI, l'actuel bureau, doit d'abord demander au ministère de l'Intérieur de recenser l'ensemble de la population congolaise avant qu'on puisse organiser les nouvelles élections provinciales. Entre autres, démanteler tous ces bureaux fictifs qu'on a décriés pendant les élections passées, supprimer la liste de certains électeurs qui se sont fait enrôler à plus de 5 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a encore un autre défi, c'est de supprimer aussi les anciennes listes des électeurs qui sont déjà décédés. Donc, en quelque sorte, ce sont là les défis que doit relever le nouveau bureau de la CENI.
Merci beaucoup, Blanchard. Vous proposez, vous pensez que le défi à relever pour ces bureaux, il y a d'abord les souhaits pour vous, c'est qu'ils demandent au ministère de l'Intérieur d'organiser le recensement de la population avant de passer aux prochaines élections, mais de revoir aussi la cartographie hein, des bureaux de vote pour éviter et supprimer les bureaux fictifs qui ont été évoqués lors des élections de 2011 et harmoniser aussi les listes électorales. Avant d'écouter notre invité, on va terminer avec vous, Crispin. Vous êtes à Lubumbashi, dans les Katanga. Bonjour, Crispin.
Bonjour, Monsieur Pierre.
Vous avez suivi les uns et les autres pour vous. Qu'est-ce que ces nouveaux bureaux doivent relever comme défi pour l'avenir?
Oui, ce nouveau bureau, vraiment, a un défi d'abord à relever. C'est celui de voir que notre population est restée vraiment avec de mauvais souvenirs. Et Mavi Malmalou a la charge de cette population de pouvoir réorganiser et revoir aussi le passé pour pouvoir améliorer le futur. Cela aussi consiste que nous voulons même que l'avenir de M. Malmalou soit fructueux, mais qu'il puisse quand même oublier le passé pour savoir comment organiser les nouvelles élections à venir. C'est ça un peu le point de vue que j'ai.
Merci Crispin. Vous souhaitez que le nouveau bureau dirigé par M. l'abbé Malmalou puisse oublier le passé, mais regarder dans l'avenir en réorganisant la CENI, le système pour avoir des bonnes élections, compte tenu de ce qui a été vécu dans le passé. Moulumba, vous êtes à Kamina, dans le Katanga. Bonjour Moulumba. Moulumba, vous êtes avec nous. Bonjour.
Allô, bonjour.
Vous êtes à Kamina, dans la province du Katanga. Pour vous, quels sont les défis auxquels le nouveau bureau de la CENI devrait faire face?
Merci beaucoup, M. le journaliste. C'est Ilunga Kaltar qui est de Kamina. C'est un étudiant.
C'est Ilunga, ce n'est pas Moulumba. Ok, on vous écoute, oui, Ilunga.
Merci beaucoup, M. le journaliste. Premièrement, je salue d'abord. Je pense que notre invité est déjà sur le plateau.
Oui, nous sommes déjà avec notre invité. On vous écoute, Ilunga.
Ça va. Monsieur le journaliste, là, moi, je trouve qu'il n'a plus les refus. Pour les refus à les rêver. Parce que, premièrement, vraiment, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Vous-même, vous connaissez ce qui était passé en 2006. Les élections, comment? Vous-même, vous êtes témoin. Même notre invité est témoin. Il connaît ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'était une organisation des élections qui était bonne ou mauvaise. Je ne sais pas. Là, monsieur le journaliste, je me pose la question. Pourquoi toujours les mêmes personnes qui reviennent dans le bureau de la CENI? Voilà ma question, monsieur le journaliste. Je vous remercie.
Merci, mais je pense que de tous les 13 membres du bureau de la CENI, je crois bien que il n'y a qu'une seule personne qui est revenue, hein, c'est monsieur Abbé Malumalu qui a dirigé autrefois la CENI qui est revenu, mais je crois le reste sont de nouvelles personnes. Fabrice, Maurice, vous allez garder la ligne le temps que le professeur Mbeboa puisse réagir, et nous allons revenir à vous. 081-890-4339, c'est notre numéro d'appel pour intervenir en direct. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel aussi pour intervenir en direct dans cette émission. La question de cette émission, c'est les défis qui attendent le nouveau bureau de la CENI.
Parole aux auditeurs.
Professeur Jean-Pierre Mbobo-Kalala, vous avez suivi les uns et les autres. On sait bien sûr hein, que dans ces débats, on ne saura pas se dépasser bien sûr de toute la contestation au niveau de la classe politique, société civile, en ce qui concerne la désignation des uns et des autres. Mais on ne saura pas revenir sur la désignation parce que les choses sont en train d'avancer comme elles avancent. Mais nous regardons dans l'avenir. Il y a eu deux élections qui se sont tenues en 2006-2011. Les gens ont les soucis en écoutant les auditeurs, que prochainement on puisse améliorer. Qu'est-ce que vous pensez de ces défis auxquels doit faire face le membre du bureau selon les propositions des auditeurs? Bien sûr, en allant ensemble avec toutes les contestations si possible autour de la désignation des uns et des autres.
Bon, moi je crois qu'il y a beaucoup de défis qui attendent le nouveau bureau, Vous savez que en 2006, lorsque l'abbé Malumalu a organisé les élections comme président de ces bureaux-là, ils avaient beaucoup de moyens. La communauté internationale avait apporté un grand soutien financier, ce qui n'est plus le cas probablement maintenant, parce que la fois passée, on a vu que le gouvernement congolais a quand même pris une bonne partie de ces dépenses-là. Donc, il y a ces questions-là. Mais moi, je vois d'abord le grand problème au niveau du personnel. Ce personnel de la CENI a été chambardé. Après les élections de 2006, on a renvoyé plusieurs éléments qui étaient pourtant formés à grands frais par la République, parce que la communauté internationale avait consenti beaucoup d'efforts pour former des gens. Je crois qu'il faut arriver à retrouver beaucoup de ces gens-là qui avaient été formés pour que les élections soient organisées par des gens compétents, des gens qui ont été bien formés pour organiser ces élections-là. Vous savez, toutes choses, ça s'apprend. C'est pas à l'école qu'on apprend à organiser les élections.
Oui.
Je crois que ça, c'est le premier défi, avoir des gens compétents, parce que ces affaires des élections, c'est quand même très technique. Il faut, au-delà de la bonne volonté, que ça soit d'abord des gens compétents. Deuxièmement, je vois encore les listes électorales qu'il faut réactualiser. Il y a des morts depuis les derniers enrôlements. Il y a des jeunes qui ont atteint l'âge de voter qu'il faut intégrer. Et donc, réactualiser cela. Il faut aussi tenir compte de toutes les questions qui ont été posées en rapport à avec la cartographie. Il y a des bureaux qui étaient loin de la population, des agglomérations. Alors, avec les dernières élections, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes en termes d'évacuation. Et donc, je crois que le nouveau bureau doit restructurer la CENI en fonction aussi de l'accès, des facilités, articuler, structurer leur bureau, leur structure à travers la République en tirant les leçons de deux dernières élections. Et enfin, il y a le bureau lui-même qui doit passer directement au travail, parce que nous avons des élections sénatoriales, provinciales, qui sont en retard.
Donc, et même les municipales, les locales qui n'ont jamais
été organisées. Et donc, il y a d'abord ceux qui ont déjà reçu les mandats, et dont on ne renouvelle pas les mandats. Et ça, nous violons le principe de base, parce que la démocratie, c'est la personne, on désigne quelqu'un qui va nous représenter, mais on lui donne un mandat. Donc il n'est pas désigné pour toute la vie. Or, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant, avec les retards connus au niveau des élections provinciales. Donc il faut que ces élections soit rapidement organisé pour que la notion de mandat accompagne la durée de mandat, accompagne l'intégration dans notre pays de la démocratie. Il y a aussi surtout les élections locales qui n'ont jamais été organisées et qui minent un peu la décentralisation, parce que la décentralisation est supposée fonctionner en s'appuyant sur des animateurs territoriaux qui sont élus. Au moins, les cadres politiques doivent être élus par la population. C'est à ces conditions-là qu'ils vont essayer de travailler en faveur de la population. Et à défaut de ces élections locales, nous avons les animateurs territoriaux qui ont été nommés et qui sont là provisoirement, qui n'ont pas assez d'autorité pour négocier avec les autorités provinciales qui sont, elles, élues. Donc, ce sont là, à mon avis, les défis qu'il faut rapidement relever, sans oublier la question des finances là. Ça, c'est une question que le bureau doit rapidement discuter avec le gouvernement pour que le gouvernement s'apprête à dégager ou à trouver au moins le moyen financier dont le bureau a besoin pour son travail. Donc voilà un peu en gros ce que moi je vois comme
Oui, mais en écoutant les auditeurs, il y a par exemple Blanchard de Kinshasa qui a évoqué le fait que le que ce bureau sollicite auprès du ministère de l'Intérieur le recensement de la population. Il y a ces problèmes, mais au regard de cette situation, il y a la révision de la cartographie, il y a aussi la révision du fichier électoral, mais d'un côté, autant de scrutins ratés, les élections municipales, locales, provinciales et les temps, comment les uns et les autres doivent-ils se comporter, que ce soit le bureau de la CENI, que ce soit le gouvernement, pour qu'on puisse éviter ce bicéphalisme au niveau des institutions et surtout qu'on puisse respecter la même échéance dans la tenue des élections, sinon on risque encore de se retrouver avec deux élections en 2016 parce que la révision du fichier électoral et la cartographie aura pris du temps et qu'on oublie encore. Et là, qu'est-ce qu'ils doivent, comment doivent-ils se comporter les uns et les autres pour arriver à harmoniser cela?
Bon, j'ai quand même entendu que le ministère de l'Intérieur est déjà en train de s'atteler, hein, est préoccupé par la question de recensement. Donc, dans notre pays, le gouvernement entend organiser véritablement des élections, donc et des recensements. Donc là, c'est déjà un point positif. Et c'est question de voir ce qui est fait, ce qui est planifié, compte tenu de l'immensité du territoire. Mm-hmm. Mais quant à la CENI a au moins le fichier électoral qui existe. Et ce fichier électoral a permis que dans notre pays, les élections soient organisées en 2006, bien que le recensement général n'ait pas été organisé. Donc on peut aussi travailler dans ce sens-là. Privilégier le fichier électoral, parce que ça existe déjà. Hein, et donc il y a moyen de le revisiter, le réactualiser. Et mm-hmm. Le travail de recensement, c'est un grand travail que notre pays va essayer de relever finalement, parce que c'est le gouvernement qui a ces défis-là. C'est un grand travail. Ça fait longtemps qu'on a eu des élections, des recensements réels. Et donc, comme le gouvernement s'est décidé de le faire, nous pensons que le ministère de l'Intérieur pourra mener à bien ces recensements. Et si le recensement est à temps, alors la CENI pourra s'appuyer sur cela. Mais si la CENI devrait se mêler dans la question des recensements de toute la population, elle risque de perdre toute son énergie au lieu de se focaliser sur les élections. Donc c'est dans ce sens-là que mm-hmm. moi je trouve que ça c'est le travail du ministère de l'Intérieur. Si le ministère de l'Intérieur faisait bien son travail et que les données étaient disponibles, ces données pourraient être utilisées par la CENI. Mais mm-hmm. la CENI elle-même peut déjà travailler avec le fichier électoral qui a au moins servi lors des dernières élections, de manière à les réactualiser, en enlevant ceux qui sont décédés, en ajoutant ceux qui sont nés, ceux qui sont arrivés au pays, qui sont rentrés au pays, et ainsi de suite. Et donc, avec ces fichiers, ils peuvent déjà au moins travailler.
Voilà, je vous fais réagir à ces messages de Franck qui nous a écrit des Vienne. Hein. On va revenir à Maurice, Toussaint et Michel. Franck dit ceci, pour lui, il y a trois défis. Hein. Il a regroupé ainsi. Le premier défi pour lui, il concerne le président de la Commission électorale nationale indépendante lui-même. Il dit, il doit d'abord relever le premier défi, c'est l'harmonisation de ses relations avec sa hiérarchie au niveau de l'Église, parce qu'on sait tout ce qui se raconte autour de la désignation, ses relations avec la CENCO, permettre à ce que le point de vue des uns et des autres et ses relations avec la hiérarchie puissent donner aussi la crédibilité au travail qu'il va faire et apaiser la population. Ça, c'est pour lui le premier défi. Le deuxième défi, il dit, c'est de rassurer tout le monde, hein, tous les Congolais qui sont pessimistes compte tenu de ce qui s'est passé en 2006 et 2011. Le nouveau bureau doit faire un effort pour donner des garanties à la population qu'on pourra faire la suite de scrutin avec les élections des députés provinciaux, les élections au niveau du Sénat et le reste pour ne plus encore s'arrêter en 2016 uniquement aux élections, à l'élection présidentielle et législative nationale. Voilà, ça c'est le point de vue de Franck. Qu'est-ce que vous pouvez dire, placer comme mot rapidement par rapport à ça? Parce qu'il a parlé d'un défi personnel autour du président de la CENI avec les relations avec son institution, tout ce qui se raconte dans les médias. Comment doit-il rassurer la population avant qu'on écoute les autres auditeurs?
Oui, là je comprends ce que Franck donne là. Vous savez que la CENI doit, le bureau au moins de la CENI a le grand défi de crédibilité qu'il mm-hmm. faut par rapport à cette institution citoyenne, cette institution d'appel à la démocratie. Donc il faut qu'il y ait confiance. Quant au président en tant que personne, il est prêtre. En tant que prêtre, je trouve tout à fait normal qu'il va s'organiser pour qu'il soit en ordre avec, avec sa hiérarchie. Là, nous sommes dans une structure qui est très organisée. Il devra trouver une formule pour qu'il soit en ordre. Surtout quand on entend la Cinco dire qu'il ne l'a pas désigné, alors qu'il est société civile, il vient dans le cas des confessions religieuses. Ce qui aurait été logique, c'est qu'il il provienne justement de son église. Alors ici, ce sont les autres confessions religieuses qui l'ont proposé.
C'est-à-dire qu'il faut harmoniser cela pour qu'il y ait la confiance, effectivement.
Voilà, il faut qu'il y ait la confiance, et lui-même aussi a besoin d'être appuyé quand même par sa structure. Vous ne pouvez pas être d'une église, et lui il est vraiment prêtre, en tant que prêtre, il est membre de cette église-là, et être en conflit à ce niveau-là avec votre organisation. Ça c'est un défi personnel, et je crois qu'il doit trouver le temps, il doit s'organiser pour se mettre en harmonie avec sa structure. Quant au deuxième défi de rassurer les Congolais qui sont pessimistes, ça je comprends cela. Après les élections de 2011 que nous avons connues, tous les Congolais n'attendent que cela, voir que le bureau là joue vraiment le rôle d'arbitre et que tous les gens qui ont les ambitions politiques viennent poser leur candidature en sachant qu'ils ne jettent pas l'argent, mais qu'ils viennent se présenter devant la population pour avoir la confiance de cette population et non être sujet à une manipulation orchestrée par des individus qui se permettent de compromettre comme ça les processus de démocratisation que notre pays a chèrement acquis, hein.
Voilà. Maurice, nous allons vous accorder la parole. Je rappelle encore notre contact 081-890-6315.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Ouais, bonjour JR.
C'est Pierrot, Maurice.
Vous avez Pierrot, suivi... bonjour Pierrot.
Voilà, nous sommes déjà en deuxième partie de l'émission. Pour vous, quels sont les défis auxquels le nouveau bureau de la CENI voudrait bien, devrait faire face pour l'avenir?
Oui, souffrez Pierrot, d'entrée de jeu que... Je exprime un peu une inquiétude à votre endroit en tant que co-gestionnaire de cette émission. Je pense que j'ai suivi le premier intervenant de Kinshasa qui vous n'avez pas vraiment laissé le temps vraiment d'évoluer. Pourtant, il était vraiment dans son intervention. Il y a eu une certaine pertinence par rapport à ses points de vue. Alors, si je puis analyser tout ce que les auditeurs, ceux qui m'ont précédé, ont pu dire ici, tous les jours sur la crédibilité de cette institution. Vous savez que j'ai suivi au courant de cette semaine le débat, quelqu'un même posait la question à un journaliste là qui disait, est-ce qu'il y a parmi les 80 millions de Congolais qui existent, est-ce qu'on a cherché, on n'a pas pu trouver quelqu'un qui soit plus compétent que Malumalu? Ou qui a un niveau de moralité plus élevé que lui pour arriver à maintenir, malgré toutes les contestations autour de sa candidature. Vous avez vu que même l'Église catholique ne l'a pas soutenu. Donc on suppose que Malumalu ne représente personne et nous nous demandons comment il se retrouve là-bas. Parce que l'Église catholique, commençant par les saints sièges jusqu'à l'Église locale, personne... Hein, ils se sont bien prononcés, ils ont dit aucun religieux, aucune religieuse ne pouvait accéder à ces postes. Mais il a défié, lui a défié la nation, il a défié l'Église catholique. On pensait que cela pouvait quand même être bloqué par Joseph Kabila, qui devrait normalement l'investir. Mais nous voyons que Kabila investit, bon lui aussi d'habitude, comme il nous a toujours nargué, il a nargué tout le monde, il n'a pas besoin d'avoir des considérations face à cette candidature, il l'a investi hier. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très déçus. Alors, quelle est cette cohésion? Aujourd'hui, on parle de la cohésion nationale. Vous pensez que c'est comme ça qu'on doit construire la cohésion nationale? Hein?
quelqu'un qui est contesté par son église, par la population, mais quand même pour raison de crédibilité, si on veut réellement une institution crédible, on ne veut pas maintenir la candidature de Malumalu. Hein? On ne pouvait pas le faire. Et pour revenir même à cette chenille, vous avez suivi les débats au Parlement, avant, je crois, la session passée, où Ngoï Mulunda était allé présenter son évaluation face aux députés. Il y a eu un député courageux qui a dit du haut de tribune que nous sommes des fruits des erreurs. Et il y a même le président de l'Assemblée qui l'a directement, qui a instantanément réagi pour dire que non, c'est les nous majestueux. Mais quand même, quelqu'un, un député, ce député-là était vraiment d'accord, était vraiment conscient de tout ce qu'ils ont fait et de tout ce qu'il y a eu au niveau de la CENI. Alors, moi j'ai demandé à la première émission qu'on avait lancée sur ce sujet, j'ai dit ceci, si on a besoin de la cohésion nationale, on veut mettre la population à l'aise par rapport à toutes les atrocités qu'on a connues par rapport aux organisations, à l'organisation plutôt des élections de 2006 comme de 2011, ce qu'on devait faire c'est quoi? Comme il y a une crise maintenant qui est quand même notoire, on devait procéder par mettre en place une commission justice, vérité, réconciliation, tout ça. C'est cette commission-là qui devrait normalement d'abord aplanir, qui devrait normalement reconstruire cette cohésion nationale tant cherchée aujourd'hui. Mais nous trouvons maintenant de voir quand même une chose de son contraire. Hein? On fait on cherche la cohésion nationale pendant que Kabila et sa bande nous foutent dans
oui,
la merde.
Maurice, s'il vous plaît. Maurice, s'il vous plaît, il faut quand même être courtois sur les antennes. Vous êtes un habitué de l'émission Parole aux auditeurs. Nous ne créons pas, en fait, les sujets ne sont pas pour exprimer nos passions, même si bien sûr on peut avoir des passions, mais il y a une manière de pouvoir l'exprimer sur les antennes, parce que nous avons chacun de nous la responsabilité de respecter les uns et les autres sur les antennes. C'est ça, le devoir que vous avez aussi en tant qu'intervenant dans l'émission Parole aux auditeurs. Mais écoutez, mais pour nous permettre d'évoluer ensemble, Maurice, je crois que vous et nous avons eu plusieurs émissions sur ce qu'il faut faire pour trouver la solution au problème que nous avons. Mais aujourd'hui, parce que les émissions se définissent avec une question que nous traitons. Nous ne traitons pas aujourd'hui la question sur comment les gens ont été désignés, mais nous traitons plutôt la question sur quels sont les défis à relever. Parce que dans le débat, il faut évoluer. Les gens ont été désignés, il y a eu des contestations, ils ont été investis. Faudrait-il aujourd'hui faire un débat autour de la désignation ou faudrait-il aujourd'hui regarder dans l'avenir parce qu'ils ont été désignés plutôt et leur dire ce qu'ils doivent faire pour éviter les erreurs du passé. Voilà un peu comment nous avons essayé d'orienter cette émission, Maurice. L'idée, c'est pour vous aussi, malgré toutes les déceptions que vous avez, mais nous dire ce que vous pensez qui doit être fait. C'est dans ce cadre que j'ai pu expliquer à notre premier intervenant, ingénieur Mangoyo, pour qu'on ne puisse pas revenir sur les rédits, ce que nous avions déjà dit, mais plutôt que l'émission puisse évoluer dans l'avenir, parce que les gens ont été déjà désignés. Pensez-vous qu'il y a quelque chose que vous pouvez leur dire pour évoluer? Où faudra-t-il que nous puissions revenir sur plusieurs choses que nous avons déjà dites, vous et nous, dans l'émission, et comme ça, on aura fait une émission qui n'évolue pas, Maurice. Est-ce qu'on se comprend dans ce sens?
Oui, merci. Je vous comprends. Merci. Je présente d'abord toutes mes excuses à l'antenne, parce que, bon, nous avons quand même un devoir de moralité face à nos auditeurs.
C'est ça même le but de l'émission.
Je voudrais revenir pour dire que il n'y a pas une volonté politique d'arranger les choses dans ce pays. C'est ce que j'ai dit, que nous sommes vraiment dirigés par des filles. Ça, c'est vraiment, c'est une manifestation, c'est vraiment une preuve pour ceux qui doutent encore que nous sommes dirigés par des filles.
Voilà.
Parce qu'on ne pouvait pas arriver là. On ne pouvait pas arriver là pendant que nous sommes vraiment en guerre, engagés. On va engager encore une guerre au niveau interne. Vous ne voyez pas que vraiment plusieurs. On ne peut pas prétendre parler de l'avenir pendant que déjà, on a faussé déjà aux prémices.
Ah, hein, voilà, merci.
Qu'on peut s'attendre comme merci. Avenir vraiment
de... Merci beaucoup, Maurice. Vous pensez que les bases sont biaisées et pour vous, il est difficile de pouvoir proposer pour l'avenir. Hein. Merci beaucoup pour la compréhension. Merci pour l'échange. Nous rappelons à tous les auditeurs, on sait que quand ça touche les élections, ce sont des débats tellement passionnés, mais nous avons aussi besoin des idées pour évoluer dans les débats et ne plus revenir sur ce que nous avions déjà dit plusieurs fois dans ces émissions, parce que le bureau a été désigné, investi, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ces bureaux-là pour qu'ils puissent faire dans l'avenir pour éviter les erreurs du passé. C'est ça même le but de cet échange d'un parole aux auditeurs aujourd'hui. Toussaint, vous êtes à Bounia, dans la province orientale. Bonjour Toussaint.
Oui, bonjour. Je ne suis pas Bounia, mais je suis à Bouniakiri, à Bouniakiri, province du Sud-Kivu.
Ah, c'est à Bouniakiri, dans la province du Sud-Kivu. Vous avez suivi les uns et les autres pour regarder dans l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez qui doit être fait par ce nouveau bureau de la CENI pour aller de l'avant tout CENI?
Vraiment, ce que je demande à M. l'abbé Malumalu et ses partenaires dans ce bureau, qu'ils travaillent avec honnêteté, d'eux-mêmes et de leurs partenaires. En deux, nous avons besoin d'avoir vraiment de président qui avait été élu crédiblement. Trois, Malumalu, il gouverne son bureau avec son honnêteté car il portait la nation congolaise sur son dos. Et j'ai une petite question.
Oui, allez-y.
Je demande à notre invité qui avait désigné Malumalu lorsque la CENCO avait refusé de désigner quelqu'un dans leur bureau ou dans leur église.
Voilà, je voudrais savoir auprès de notre invité, bien, parce qu'il y a ces débats autour de la CENCO qui a dit qu'elle n'a pas désigné, mais alors comment lui s'est-il retrouvé au nom des confessions religieuses? Notre invité pourra nous donner un peu des explications là-dessus. Nous avons aussi le message de Bwana Masala qui est à Kamina dans la province de Katanga. Il dit ceci: le grand défi que le nouveau bureau de la CENI doit relever, c'est d'être effectivement indépendant. Il faudra aussi que les élus du peuple et d'autres acteurs politiques cessent d'instrumentaliser ou de manipuler cette institution pour qu'elle soit effectivement indépendante, car ce sont eux qui ont approuvé ces bureaux. C'est le point de vue de Bwana Masala. Michel, vous êtes à Matadi, bonjour. Michel, bonjour. Désolé, on a perdu Michel de Matadi. Nous avons Bruno qui est à Ouvira. Maître Bruno, vous êtes à Ouvira dans la province du Sud-Kivu. Bonjour, Maître Bruno.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez suivi les uns et les autres. Pour vous, quel est le défi auquel le nouveau bureau de la CENI doit faire face pour l'avenir des élections en RDC?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole nous accorder. Il y a trois défis à ces propos. Le premier défi, c'est le temps. Le deuxième défi, c'est la crédibilité. Et le troisième défi, c'est l'indépendance. Le temps, c'est par rapport aux élections locales, au niveau de la province, au niveau urbain et aussi pour l'installation du bureau du Sénat. Et en ce qui concerne la crédibilité, donc le bureau doit faire un effort pour être un bureau crédible. Pourquoi nous dit-on ça? Parce que, vous savez, en 2006, le président Malumalu a commis beaucoup d'erreurs. Donc, même si on dit souvent qu'il y a une auteure qui dit que l'homme ne change pas, mais il doit faire un effort pour être un bureau crédible. Et le troisième élément que je vais ajouter, c'est par rapport à l'indépendance. Donc, ils doivent tirer attention pour que le bureau soit vraiment indépendant. Parce que la CENI, c'est un bureau, doit avoir un bureau indépendant. Voilà les trois éléments que j'avais à ajouter par rapport au sujet du jour.
Merci. Merci beaucoup, Bruno. Vos trois défis pour vous. Le premier, c'est le temps. Il faut se battre contre le temps par rapport aux élections locales, municipales, mais aussi aux élections provinciales. Il y a aussi la crédibilité en tenant compte des erreurs du passé. Et le troisième des défis, c'est l'indépendance. Les bureaux doivent se battre pour vraiment être indépendants. 081-890-63-15, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Professeur Mbouéboua, vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Je crois que les débats autour de comment les gens ont été désignés, c'est un débat très passionnant. Si on voudrait bien s'attarder, on pourra faire autant d'émissions. Aujourd'hui, on comprend même la rage avec laquelle les uns s'expriment par rapport à ça. Mais on a besoin d'évoluer comme les uns et les autres ont évolué parce que les bureaux sont déjà désignés. Il faut regarder dans l'avenir. Il y a cette question qui vous a été posée par notre ami Toussaint Né qui voudrait savoir cette procédure de désignation, comment cela a été opéré parce qu'elle est au centre de tous les problèmes, parce qu'on ne pourra pas même parler des défis sans pour autant évoquer comment les gens ont été désignés, voilà, et ce que les autres ont proposé par rapport au temps, crédibilité, indépendance.
C'est ça, je crois que c'est important peut-être d'informer. Il y a beaucoup d'intox aussi dans l'information qui est donnée. Il y en a qui n'ont pas la chance de savoir très bien des choses et d'autres les manipulent aussi. Alors, en termes d'information, il faut savoir que la nouvelle loi sur la CENI a prévu que l'on puisse avoir le membre à la CENI qui vienne de l'opposition, d'abord de la majorité, 6 membres, qui est aussi 4 qui viennent de l'opposition. Uh-huh. Et pour cette fois-ci, ils ont aussi prévu que la CENI soit représentée.
La société civile.
La société civile, voilà. Uh-huh. Que la société civile soit aussi représentée. Donc, en plus des gens venant, des forces venant de la majorité, venant de l'opposition, qui est aussi des gens venant de la société civile. Alors, la loi a précisé aussi la société civile, quelle partie de la société civile allait concourir à cette désignation. La loi a cité les confessions religieuses qui devraient désigner quelqu'un, les organisations d'éducation civique et électorale qui devraient désigner quelqu'un, et les organisations de défense des droits de la femme. Ce sont ces 3 composantes de la société civile qui devraient désigner des gens. Alors, l'abbé Malumalu vient de la composante confession religieuse. Ça veut dire que chaque composante devrait s'organiser pour désigner son candidat. Alors, au niveau des confessions religieuses, d'après l'information qui a été donnée par la CENCO, par le secrétaire général adjoint de la CENCO qui a donné l'information, au niveau des confessions religieuses, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont convenu que chacun vienne prochainement avec un candidat. Et comme ça, chacun amenant son candidat, ils allaient discuter entre eux et trouver un candidat qui allait avoir le consensus, l'assentiment de tout le monde. Alors, le jour où ils se sont retrouvés maintenant pour que chaque confession religieuse propose un nom, toutes les autres confessions religieuses ont proposé l'abbé Malumalu, sauf l'Église catholique qui est venue avec le nom de Monsieur Botolo. Alors, c'est comme ça que l'Église catholique s'est retrouvée avec un nom et toutes les autres confessions religieuses avec un membre de l'Église catholique, à savoir l'abbé Malumalu. Donc, c'était devenu très embarrassant dans cette réunion-là. Oui. Finalement, la majorité jouant, donc on a accepté. Donc, les confessions religieuses ont alors, dans ces conditions, proposé le nom de l'abbé Malumalu qui était adopté par toutes les autres confessions religieuses sauf l'Église catholique. Donc c'est de cette manière qu'il est là. Donc il n'est pas tombé du ciel, il y a pas, parce qu'il y a beaucoup de polémiques, c'est comme si c'est par la magie, etc. Non, il est venu par le biais de la composante confession religieuse. Et ce qui est simplement embêtant, c'est que lui n'est pas proposé par son église. Il est proposé par les autres églises. Donc les autres églises qui devraient amener leurs membres de leur église ont amené le nom d'un catholique. Alors c'est ça qui est embarrassant là-dedans. Mais sinon, il est désigné de manière régulière parce que ce sont les confessions religieuses qui le proposent. Et donc, dans la composante confession religieuse, l'abbé Malumalu est sorti comme candidat.
Qu'il y a, compte tenu de ce que Franck nous a dit en début d'émission, on s'est dit que c'est peut-être au niveau interne que ça peut s'arranger personnellement entre lui et l'Église pour éviter un peu tout ce qui tourne autour.
Il doit gérer maintenant son problème avec son Église, ça c'est la cuisine interne, parce que au niveau de la CENCO, ils ont pris une position, ils ne voulaient pas que les clergés soient présentés, soit un évêque, soit un prêtre. Ils voulaient que ces engagements engagement-là soit fait par
les laïcs. Voilà.
Hein, les laïcs catholiques.
Et pour rejoindre l'auditeur, notre maître qui venait de parler tout à l'heure d'Ouvira, il faudrait que ces questions soient harmonisées parce qu'il y a ces problèmes de la crédibilité qui a un grand défi à relever pour ces bureaux rapidement avant que les derniers auditeurs.
Exact. Vous savez aussi que l'Église catholique est l'unique organisation interne ici, congolaise, qui a travaillé lors des élections de 2011, qui a fait l'observation électorale réelle à travers toute la République et qui a fait aussi une déclaration à l'issue de ces élections qui a beaucoup pesé à côté des déclarations des organisations étrangères. Et donc, dans ce sens-là, la communauté internationale est un peu attentive à la position de l'Église, donc de l'Église catholique. Et donc, dans ce sens-là, il est souhaitable que l'Église catholique, par rapport à son membre, parce que l'abbé Malumalu, c'est d'abord un prêtre, donc dans ce sens, il est vraiment membre de l'Église, qu'on arrive à trouver un arrangement avec l'évêque,
pour éviter que cela n'entache la crédibilité du processus.
Voilà, il ne faut pas que ça salisse tous les processus, hein, parce qu'à ce moment-là, vous voyez, c'est commenté comme tricherie, comme ceci, alors que nous voulons maintenant avoir une CENI qui organise quand même des élections crédibles. Et donc, elle-même, son bureau doit être lui-même aussi crédible, propre, ainsi de suite. Hein, donc l'abbé Malumalu, comme le secrétaire général adjoint de la CENCO l'a dit, ce n'est pas un problème de compétences qu'ils ont, qu'ils posent, non. Il est très compétent, c'est tout un professeur de sciences politiques, il est recteur, il a été recteur de l'université de Graben à Butembo, donc c'est quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là. Mais eux ne le voyaient pas dans ce sens-là comme président de la CENI, probablement à cause de tous les tourbillons qu'il y a autour de ce poste.
Voilà.
Ils le voyaient à d'autres responsabilités, organiser des formations, parce que l'abbé Malumalu joue aussi un grand rôle au niveau africain. Il est invité à plusieurs endroits pour former les gens en matière électorale, sensibiliser les gens, ayant lui-même été président d'une commission électorale dans son pays. Et donc, c'est un grand rôle aussi qu'il joue au niveau africain, voire au niveau mondial. Donc, c'est quelqu'un qui est une grande référence, qui est aussi une fierté pour le pays par rapport à cela. Mais donc, je pense que l'abbé Malumalu, avec son évêque, ils peuvent quand même s'arranger pour qu'au niveau de la CENCO il y ait quand même un compromis et qu'ils trouvent un arrangement, que ça ne soit pas à travers les médias comme ça.
Voilà, nous allons écouter Lambert qui est ici à Kinshasa, docteur Blaise aussi à Kinshasa rapidement. Lambert, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour à notre invité.
Vous avez suivi les uns et les autres, on termine déjà cette émission. Eu égard à ce qui a été dit pour vous, rapidement, quels sont les défis auxquels le nouveau bureau de la CENI devrait faire face dans l'avenir?
Merci beaucoup, je peux quand même introduire, on va les proposer. Vous savez, le nouveau bureau de la CENI part déjà d'un étranglement, il y a un problème. Dans ces conditions, moi j'essaie au moins de regrouper tout ce qui est autour de ces bureaux en des problèmes. Je vais commencer par, je vais poser un problème d'abord de la ressource humaine et puis la communication. Comme ça, comme il y a un problème de ressources humaines et un problème de la communication, je propose que la CENI puisse procéder de cette manière. Hein? Inscrire si c'est possible les gens de différents partis politiques dans les différents bureaux provinciaux, tout ça, il faut inscrire ces gens-là. Puisqu'il se pose un problème avec les représentants des partis politiques, ce sont d'abord les semer les désordres dans l'organisation des élections. Ça, c'est le 1. Le 2, j'ai proposé que le nouveau bureau puisse encore créer un mécanisme de déploiement qui est un peu clair. C'est aussi une cause qui entre un peu en jeu pour la contestation des élections. Les dépouillements, comment j'ai obtenu autant de voix, alors que lors de l'affichage, il se pose un problème. Et de 3, je propose encore un problème, l'organisation, que les élections soient organisées de manière unique. Présidentielles, députés nationaux et les sénateurs. Au moins les sénateurs. Présidentielles, les députés nationaux. Pourquoi? Puisqu'il y a un point d'interférence. À un moment donné, le bureau est censé recevoir des injonctions, puisque c'est le président qui a déjà eu dit, et faites ceci, il se pose aussi.
Voilà, merci, problème. Merci beaucoup Lambert. On retient, vous souhaitez qu'il y ait d'abord le problème des ressources humaines de la communication, vous souhaitez même qu'on puisse revoir la procédure de dépouillement. Ça, c'est au niveau de la loi électorale qu'on définit comment on doit dépouiller, mais vous pensez qu'il faut écarter les représentants des partis politiques hein, dans la suite du processus en province. Bon, on ne saura pas expliquer ça comme on est vraiment habité autant. Docteur Blaise, rapidement, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Désolé qu'on vous prend en dernière minute. Hein. Rapidement aussi, votre point de vue par rapport aux défis à relever.
Merci beaucoup. Je voulais soulever trois petits points.
Mm-hmm.
Le premier petit point, je suis content de notre invité parce qu'il est dans ma pensée.
Mm-hmm.
On a parlé de la construction religieuse, mais on n'a pas dit que le candidat doit être proposé par son église. Ça veut dire qu'il est sûr et concret que l'abbé Malumalu, qui est prêtre, fait partie de la confession religieuse. Voilà la thématique.
Mm-hmm.
Donc le fait qu'il soit de la confession religieuse, ça n'exclut pas sa légitimité. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes dans un pays et nous connaissons comment ça se passe. L'abbé fait partie d'éléments dans l'ensemble de la CENI. Mon frère, si aujourd'hui on peut avoir l'abbé, même s'il était saint, les 12 autres membres, vous avez déjà vu dans notre pays, un membre de la CENI déclarer très haut qu'il y a tricherie. Jamais. On vous a parlé de, excusez-moi, je parle de quelqu'un, on vous a parlé de professeur Joly.
Mmh. Voilà, désolé, docteur Blaise, désolé vraiment, on ne saura pas aller plus loin. Professeur Beauvoir, on a juste 20 secondes pour placer un mot, hein, parce qu'on termine cette émission par là.
Non, moi je crois que la CENI a des défis énormes. Les défis doivent, le bureau doit montrer qu'elle est crédible et doit vraiment faire rassurer les gens. Les Congolais ont besoin de voir leur processus de démocratisation aboutir, de donner des résultats crédibles. Donc que désormais, la CENI organise l'élection comme arbitre, les candidats qu'ils se retrouvent, élus par les populations. Voilà.
Je vous dis merci, professeur Beauvoir. Vous êtes professeur des sciences politiques et analyste politique. Merci également à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. J.R. Lungembo, Titimputu et Paul Badianyama à la réalisation. Nicole Ngaka l'a supervisé. Nous vous laissons en compagnie de l'équipe News. Vous allez retrouver l'émission en rediffusion à 20h, 3h de Kinshasa. Au revoir.